L'émission du jour a été réfléchie, pensée, imaginée avec Romain Debecq de Lièvre, Alice Ramon et Inès Duperron, Mes Grandes Ondes. Réalisée par Véronique Villa, avec aux manettes Jean-Guilain Meige.
Qu'est-ce que c'est ça?
On passait juste par là.
Ah bon?
Et par hasard?
Non, c'est pas vrai, t'es peint. Il y a 2 ans, il me dit, on passait juste par là. Puis après, j'ai dit, foutez-moi le camp, hein. Foutez-moi le camp, j'ai dit.
Mais pourquoi vous avez dit ça?
Parce qu'il commençait à me casser les couilles pendant 2 heures.
Mais sur quel sujet, précisément?
Hein?
Sur quel sujet, précisément?
Parce que il me laissait parler le tout pour tranquille.
Mais ils étaient venus pour des histoires qui fâchent ou ils étaient venus juste pour vous entendre leur parler des...
Vous demandez ça qui c'est, ça qui c'est, comment vous vivez, comment si, comment là, ouais, comment.
Bon, donc on rigole pas.
Bon, oh, j'en ai assez avec le CRP.
Ah oui, mais c'est pas TF1, c'est ça le problème.
Et qu'est-ce que c'est ça?
Mais c'est la radio, c'est différent.
Comment la radio? Quelle radio?
France Culture.
Oh.
Je me suis souvent demandé si mon village natal, avec ses 800 habitants, ses lacs, ses étangs, ses chemins et ses forêts, sa barrière de volcans et ses massifs montagneux, existait, même pauvrement, dans l'esprit de ceux qui n'y avaient pas grandi. Lors d'un morne cours de droit administratif, j'ai appris que la France comptait environ 26 000 communes de moins de 1 000 habitants. Enfin, voilà, j'avais trouvé ma case, ma place dans les rapports officiels. Je me suis retrouvée dans les chiffres qu'on assène pour codifier, formaliser, structurer un pays. Ma famille, mes proches, mes amis, mes anonymes et moi-même faisons partie des quelques 20% de la population française rattachée à ces terres, tantôt paisibles, tantôt terribles, faussement considérées comme le berceau des bouseux, des péquenauds, vastes espaces dont personne ne parle, dont personne n'entend parler, que l'on devine parfois dans les reportages télévisés, à l'heure du journal des régions, et que peu de cinéastes, d'écrivains, de photographes ont saisi. Pourquoi s'attarder dans pareil endroit ? Demande Cécile Coulon en introduction de son livre « Les grandes villes n'existent pas » paru au Seuil. Il est 14h passé de 3 minutes sur France Culture. Attardons-nous, bienvenue dans les Nouvelles Vagues. Il y a des histoires qui circulent au village et il y a des corps qui dansent aussi pendant les fêtes. C'est exactement dans une de ces fêtes que se retrouvent prises par hasard les deux photographes Marie Boutier et Anouk Le Marquis pour leur projet Demi-tour de France. Alice Ramon leur demande depuis lundi 5 histoires de village pour élargir l'angle de vue de notre chantier thématique. Et aujourd'hui, elle parle d'une couronne de roses et de rites bien vivants.
J'ai vu cette jeune fille avec une couronne de roses autour de sa tête, et je voyais une femme qui était mais fière comme un coq. Et je lui ai dit, est-ce que c'est votre fille, madame? Et là, elle m'a dit, mais bien sûr, oui, c'est ma fille qui a gagné le prix d'être la plus belle du village.
Musique et visage fier vers 14h50. C'est le 4e temps donc de ce chantier que nous consacrons au village. Celui d'aujourd'hui s'appelle Les Fontaines. Et au bout de ce petit bout de monde où la forêt crache les hommes comme des pépins, les Trois Gueules abritent une maison, la cabane. Cette maison devient peu à peu le centre de tout. Le médecin André s'y installe après avoir manqué de sauver un enfant. Sa propre famille y fait le décor d'une vie de campagne, naissance, repas, repos, travail, en oubliant d'y craindre la foudre, le sort et le désir. Bien sûr, la ville n'est pas si loin et certains, certaines ne manqueront pas d'y trouver un autre air. Cécile Coulon, votre dernier roman s'appelle « Trois orages ». Il est publié aux éditions Vivienne Ami. Bonjour et bienvenue.
Merci, bonjour.
La neige et la poussière sur les arbres. Les étangs gelés. Les routes impraticables. Un seul médecin. Ils disent qu'on ne peut pas y grandir sans devenir fou. Que les mariages consanguins ont enfanté des monstres qui se nourrissent de la pierre qu'ils taillent. Ils disent que des ouvriers sont ensevelis sous des tonnes de calcaire, que des fermiers ont succombé à des maladies qu'on soigne très bien en ville. Tout est soit trop pâle, soit trop sombre, les couleurs sont sales, malades, la craie recouvre tout. Quand la pluie vient, c'est comme une nappe ruisselante de miel et de graisse, rien ne peut la laver. À part le feu, peut-être. il faudrait fermer la carrière. Il ne faudrait plus creuser la falaise. Un jour, elle s'énervera, elle explosera. En ville, ils disent qu'ils ne croient pas aux légendes. Mais ils connaissent tous quelqu'un qui, la nuit, a entendu les cris de ceux qui ont été broyés sous la pierre. Ils n'y sont jamais allés, mais ils savent qu'il y a des fantômes, qu'il ne faut pas tourmenter la falaise. Des choses y sont cachées. Il ne faut pas les déterrer, ces choses-là. Ces choses-là n'avaient blessé personne jusqu'à l'arrivée des frères Charrier. Ils pensent qu'il ne faut pas aimer la vie pour vivre aux trois gueules.
Cécile Coulon, Romain de Bec-de-Lièvre lit un extrait, premier extrait de votre livre Les Trois Orages. On est au tout début du livre et c'est comme si vous plantiez une forme de décor pour faire exister ce village. Si vous essayez d'étirer un peu cette description et de nous le présenter, ça donne quoi ?
Les fontaines sont un village qui, en fait, était un village en ruine et qui maintenant existe, en tout cas dans le livre existe, parce que une entreprise, les frères Charrier, sont venus pour y ouvrir une carrière qui va être un lieu important pour la région et un lieu important pour le pays, qui va devenir une de ces entreprises familiales connues. Et en fait, le décor de ce village, ce sont les montagnes, ce sont les forêts, ce sont les animaux, ce sont les fermes qui vivent encore, mais aussi les fermes abandonnées. Et mon idée, quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'était que le personnage principal du livre était le décor, était la nature. La nature n'était pas un prétexte, n'était pas qu'un décor, c'était un ensemble d'organes, c'était un corps à part entière, qui respirait, qui était violent comme un corps, qui avait des sentiments, des sensations, des tremblements, des frémissements comme un corps. Et c'est comme ça que j'ai pensé ce livre et que j'ai pensé ce début de livre, justement, en imaginant tous les sentiments que peut ressentir une nature sauvage.
En même temps, dans ce passage-là, vous écrivez avec cette phrase qui revient, ils disent, comme si pour pouvoir penser le village ou penser la nature de ce village-là, il fallait pouvoir écouter les rumeurs, alors peut-être celles des arbres, mais aussi ceux des habitants, ou éventuellement ceux des habitants de la ville qui ne regardent le village que de loin. Est-ce que c'est aussi la manière dont vous avez procédé en tant qu'écrivain? Est-ce que vous avez tourné comme ça autour?
Je procède un petit peu, effectivement, comme un animal qui doit renifler quelque chose qu'il ne comprend pas avant de l'approcher. Et cette expression, ils disent, vient effectivement de ceux qui vivent en ville, de ceux qui entendent la nature, qui la perçoivent sans vraiment la voir et sans vraiment la regarder. Et ce « ils disent » qui revient en permanence, c'est aussi une façon de montrer que le langage face à la nature est assez pauvre, qu'il n'est pas tout-puissant et qu'il n'est pas capable de la décrire. Et que du coup, pour contrer cette incapacité, le langage a tendance à inventer des choses. Et que très souvent aussi... certains endroits de la nature, certains endroits un petit peu reculés, deviennent des lieux où quand on habite en ville, on peut mettre tout ce qu'on veut, tout ce qui nous fait peur, toutes nos frustrations, tous nos fantômes, un peu comme dans un livre de Stephen King. Stephen King, quand il écrit un livre, il met tout ce qui l'angoisse. Et parfois, la campagne, c'est le lieu où les citadins peuvent imaginer tout ce qui les angoisse. Et c'est l'inverse pour ceux qui habitent à la campagne et qui font ça avec la ville.
D'ailleurs, ce paragraphe-là que disait Romain se termine par « ils disent qu'il ne faut pas aimer la vie pour pouvoir vivre aux trois gueules ». Donc on sent aussi cette intensité et cette frontière par-delà laquelle certains pensent que l'on ne vit pas en réalité.
Tout à fait, et on peut penser que cette frontière est géographique et en fait elle est psychologique, cette frontière. C'est de se dire qu'à un certain lieu de la mémoire, de la pensée, de la psychologie, on n'est plus capable d'imaginer, on n'est plus capable d'avoir la bienveillance humaine, on n'est plus capable de croire qu'il y a des gens qui nous ressemblent à cet endroit-là. Et je pense que chacun a une espèce de palissade comme ça intérieure, et on se dit de l'autre côté, peut-être que des choses me ressemblent, mais ça ressemble plus à un livre de Lovecraft qu'autre chose.
Trois saisons d'orage, c'est aussi du temps qui passe. Vous remontez les saisons jusqu'aux guerres pour aussi dire combien ce village-là voit passer des hommes et de l'humanité. Pourquoi c'est important pour vous de ne pas vous centrer que sur une époque contemporaine dans laquelle aurait pu juste exister ce village-là ?
Alors, la question de l'époque contemporaine, je l'ai très vite évacuée pour une raison très simple, c'est que je vis encore dans cette époque contemporaine et de ce fait, je n'ai pas le recul nécessaire pour en parler par la fiction. Il y en a qui le font très bien et je leur laisse faire. Et la seconde raison, au départ, il y avait vraiment aucune marque temporelle dans ce livre, dans le premier dans le premier manuscrit. Ça a été rajouté après parce qu'effectivement, il y avait ces trois générations d'une même famille, on les suivait. Mais moi, j'avais pas envie de donner de date. J'avais pas envie forcément de dire que ça se passait avant ou après la guerre. Je voulais juste qu'on puisse suivre ces trois générations sans se demander à quel moment elles s'épanouissent. Et puis, en fait, finalement, j'ai fini par poser des jalons temporels. Et finalement, je trouve qu'ils sont nécessaires et utiles parce que ça donne la sensation que malgré tout ce qui peut arriver ou ne pas arriver à l'intérieur de ce massif montagneux, lui, il est encore là.
Il y a des lui gens, qui, le massif, village, le massif.
Le massif, le village, ou en tout cas la pierre est encore là. La pierre du massif qui sert à faire les maisons du village, elle reste, elle est intemporelle, elle a beau être fatiguée, épuisée, elle a beau être creusée, elle a beau être encavée, elle est encore là et c'est elle, tout à l'heure je parlais de personnage principal, c'est elle le personnage principal parce que c'est elle qui ne s'inscrit dans aucune temporalité, elle est la temporalité parce
et elle traverse.
Elle. Et elle traverse tout.
Dans un village, le médecin, bah, c'est qui ? C'est la personne à qui on peut venir en dernier recours, parler, simplement parler quand on n'en peut plus, de solitude, d'angoisse. Donc il y a des gens, il y a une femme qui vient lui dire « Je suis désolé, je prends votre temps, mais je ne suis pas malade. » Et il répond joliment « Non, mais vous souffrez. » Donc pour lui, c'est très largement suffisant. Donc il écoute la femme qui en pleine nuit l'appelle parce que le bébé pleure un peu de fièvre. Et puis il dit après, il fait son compte-rendu et après il dit « Le bébé n'avait rien. » Mais elle, par contre, en avait des tonnes à raconter. Et ce médecin, qui est encore jeune, il a 35 ans, c'est jeune pour un médecin, il est plein d'enthousiasme, il est plein, il n'est pas blasé, il n'est pas blindé, comme hélas ses confrères souvent sont amenés à le devenir, parce que c'est insupportable de côtoyer la douleur, la souffrance quotidiennement.
C'est la voix de Michel Deville au micro de Michel Simon en 1999 sur France Culture. Il évoque La maladie de Saxe, le roman de Martin Winkler dont il fait un film, et la figure du médecin de campagne qui à la fois voit souffrir et mourir les gens et recueille toutes les paroles, y compris au cœur de la nuit, lorsqu'un bébé pleure infiniment et qu'une mère n'en peut plus. Cécile Coulon, vous, dans Trois saisons d'orage, vous faites de ces générations-là des générations d'hommes et de femmes qui sont liées à une figure tutélaire, celle d'André, qui est médecin. Pourquoi est-ce que c'était quelque chose d'important ou pourquoi est-ce qu'elle est arrivée, cette figure de médecin ?
Parce qu'il fallait que cette figure tutélaire soit forcément pour moi reliée au corps. C'est un texte qui parle de la sensualité, qui parle aussi de l'absence de sensualité et à quel point elle est nécessaire dans la vie des gens, à quel point elle est vitale, à quel point elle est fondamentale aussi. Et lui, André, quand il arrive aux fontaines, quand il arrive aux Trois Gueules, il a vu des gens mourir, il a surtout vu des enfants mourir pendant la guerre. Donc c'est quelqu'un pour qui le corps, dès le départ, le corps des autres est meurtri, est attaqué, et surtout un corps innocent. Pour lui, le corps des enfants, c'est un corps innocent, c'est un corps qui n'a pas eu le temps de grandir. Et il doit se remettre de ça. Il doit se remettre de l'innocence massacrée. Et c'est quelqu'un qui va porter cette innocence massacrée jusqu'à la fin du livre et qui va de nouveau la côtoyer aux fontaines. Et j'ai eu envie, en fait, de dire que quelque part, pour moi, en tout cas, les médecins de campagne, surtout en montagne, jouent les rôles peut-être que les prêtres ou les curés ne peuvent plus jouer puisqu'on croit un peu moins en eux. Pour une raison très simple, on préfère aller voir son médecin parce que le médecin, il a l'expérience du corps qu'un prêtre n'a pas ou qu'on pense qu'il n'a pas. Et c'est pour ça qu'on va le voir, parce que quand on souffre, la souffrance, elle est, qu'elle soit physique ou psychologique, elle est contenue à l'intérieur du corps. Et c'est pour ça que moi, j'avais envie qu'André, il soit cette âme qui plane sur les autres parce qu'il comprend ça, il capte ça et parfois, il est même incapable de soigner ça.
D'ailleurs, vous dites que c'est un texte sur la sensualité, et en effet, et sur le désir aussi, qui va arriver dans une deuxième partie du texte. qui passe aussi par les bêtes. Cette sensualité, cette chaleur, cette expérience du corps. Il y a une scène où un paysan tombe, il est frappé par un malaise et en fait il est gardé par son troupeau qui garde à la fois la chaleur autour de lui et qui le veille. Et il m'a semblé, même si les bêtes ne sont pas extrêmement présentes dans votre texte Trois saisons d'orage, qu'il y avait là une façon de dire que une des sensualités qui pouvait être absente dans ce village était extrêmement présente dans la manière dont on naît avec un troupeau.
Absolument. Il faut savoir une chose qui est toute simple et toute bête, mais qui est fondamentale, c'est qu'à la campagne, ce sont en partie les animaux qui font vivre les hommes et pas l'inverse. C'était mon père qui disait qu'à une certaine époque, à la campagne, une vache était plus importante qu'un enfant parce que c'est elle qui ramenait le lait, c'est elle qui ramenait la viande. Et il fallait qu'elle soit en forme et qu'il y avait beaucoup plus de vétérinaires que de médecins. Et c'est vrai, peut-être que ça l'est encore d'ailleurs. Donc dans Trois saisons d'orage, les animaux sont présents par petites touches. J'en parle peu parce que j'ai voulu aussi me recentrer sur les êtres humains, mais je voulais montrer qu'ils sont forcément là et que la famille de Valère, par exemple, les premiers contacts physiques qu'ils ont, c'est pas avec les membres de leur famille, c'est avec leurs animaux qui veulent absolument préserver de tout et même préserver d'eux-mêmes. Parce qu'il y a un passage où le père en veut terriblement à son fils qui maltraite ses bêtes et qui dit « mais on ne peut pas se permettre de maltraiter des animaux, on peut se permettre de maltraiter ses enfants, mais on ne peut pas se permettre de maltraiter ses animaux ». Et peut-être que la chaleur la plus importante du livre, effectivement, vient du mufle des vaches et de la chaleur des chiens et des chats, oui. Bien sûr.
Pourquoi ? Parce que justement il y a eu la guerre, parce que les hommes se sont entretués, parce qu'il y a eu des innocences massacrées. En même temps, ce troupeau-là de vaches garde la chaleur, permet à ce qu'un médecin puisse arriver et soigner ce paysan. En même temps, elles sont comme innocentes, ce que ne sont pas exactement les humains qui parcourent ce livre.
On n'est jamais vraiment innocent à partir du moment où on a la capacité de penser de toute façon. Mais... je crois que ce troupeau de vaches qui est tellement important dans ce livre, même si on ne le voit qu'apparaître, il revient à la fin du livre, il incarne tout ce que les hommes ne sont pas capables de faire alors qu'ils devraient savoir le faire, c'est-à-dire protéger les leurs. Et je crois que dans ce livre, la vraie faiblesse des hommes et des femmes, ce n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer, de haïr, c'est être dans l'incapacité totale de faire barrière à une certaine forme de mal, à une certaine forme de malédiction surtout, et une certaine forme de malédiction qui vient d'eux-mêmes et qui s'allie au caractère très sauvage de la nature qui les entoure.
Et c'est une malédiction qui ne touche pas n'importe qui touche les enfants. Et tout au long du livre, dès le début, on sent qu'il ne fera pas bon naître, qu'il ne fera pas bon être petit, y compris les moments dans cet endroit incroyable qu'a l'air d'être la cabane où vit André et sa famille, cette nature, cette maison de laquelle il tombe parfaitement amoureux pour s'y installer et installer sa famille. En fait, tout ne sera pas permanent dans le bonheur pour les enfants.
Est-ce que le bonheur, c'est un état permanent? Déjà, c'est une excellente question auquel je ne peux pas répondre tout de suite parce que je n'ai pas la réponse. Je crois que la figure de l'enfant et l'enfance en général dans ce texte, c'est un grand point d'interrogation. Et c'est un grand point d'interrogation parce que moi, quand j'ai commencé à écrire et quand j'ai commencé à penser l'histoire, je me suis dit, voilà, aujourd'hui, on est tellement persuadé que c'est naturel de faire des enfants, mais est-ce que c'est naturel de les élever? Est-ce que c'est naturel de les éduquer? Comment on fait pour prendre soin de quelqu'un qui est un mélange de deux personnes? Comment on fait pour être sûr qu'il ne va pas trop souffrir, mais qu'il faut qu'il souffre un petit peu quand même pour grandir? Et je pense que moi j'ai pas d'enfants, mais en écrivant ce livre, je me suis posé cette question de est-ce que l'enfance, c'est pas aussi un moment maudit de l'existence, parce que c'est quelque chose de beau qu'on vous propose dès le départ, mais qu'on vous enlève aussi très très vite.
Dans votre essai, ou votre livre d'ailleurs, pour pas forcément parler d'essai, Les grandes villes n'existent pas, dont je lisais un passage tout à l'heure en introduction, vous écrivez un petit peu plus loin qu'on a souvent tendance à considérer que le village, c'est un endroit où les enfants ont plaisir à grandir, qui devient un enfer pour les adolescents. Et vous écrivez que combien cette idée est, si ce n'est fausse, en tout cas vraiment toute faite, pourquoi les enfants aimeraient forcément être au village et les adolescents n'aspireraient que à se promener dans les allées des grands magasins en ville, comme si vous redonniez au village sa possible ère d'inquiétude pour les petits, alors qu'on en fait une sorte un peu de jardin d'Éden.
C'est vrai qu'on a tendance à penser que comme enfant, on n'a aucune conscience des limites et que ces limites, on les comprend qu'à l'adolescence, et bien un village, dès qu'on est adolescent, devient un enclos, en fait, dont on n'arrive pas à sortir. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, d'une part parce que personnellement, je n'ai pas ressenti ça à l'adolescence. Je ne me suis pas dit « j'ai absolument envie de quitter cet endroit, c'est l'horreur, c'est l'enfer ». Jamais je me suis dit ça, au contraire, je me suis dit « moi, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux à l'adolescence dans cet endroit-là ». Je crois que l'inquiétude que peuvent ressentir des enfants dans des lieux pareils vient du fait que, à partir de certaines heures, il y a une sensation de vide. Mais de vide qui serait pas comme un grand magasin vide ou un centre commercial vide ou une gare vide. Quelque chose qui serait, au contraire, envahi des bruits de la nature. Où tout d'un coup, le vent, le son des animaux, les animaux nocturnes prennent tellement de place que ça peut être un peu effrayant.
Et d'ailleurs, pour en revenir encore une fois, et peut-être une dernière, au passage que lisait Romain de Bec-de-Lièvre, ce vide-là est absolument peuplé de fantômes. C'est-à-dire que quand le soir vient et quand le repas est pris, et souvent épuisé de par le travail au champ avec les bêtes ou de par les tournées de médecine, quelque chose qui plane arrive, et ce sont quoi, les morts ?
Les morts ou les vies de ceux qui ont vécu là avant. J'avais un ami qui a lu le texte et qui me disait quelque chose que je trouve très beau. Il disait, en fait, la campagne, les lieux ont une histoire et pas les gens. Et en ville, c'est l'inverse. La ville, c'est là où les gens peuvent avoir une histoire, peuvent avoir une célébrité, une gloire. À la campagne, c'est pas possible parce qu'il y a eu tellement d'histoires avant, parce que le lieu est tellement chargé d'histoire que ça étouffe la nôtre. Et je trouve ça très vrai, très vrai. Et peut-être que ce vide un peu angoissant, il est chargé des histoires des autres, en fait.
Pour trouver l'endroit où le trou que j'ai au cœur ne se verra pas. Où devrais-je aller pour trouver la foi? Où, mais où devrais-je aller pour être enfin chez moi? J'ai vogué sur le Nil et l'Amazone, j'ai parlé toutes les langues d'Asie. J'ai vogué sur le Nil et l'Amazone, mais je ne suis l'autochtone d'aucun pays. Je changerai à chaque port le nom de mon bateau, me disais-je en quittant le nord pour les pays chauds. Mais tant d'autres aventuriers m'avaient précédé. Le monde était moins sauvage que j'avais espéré. J'ai pas vraiment frôlé la mort, je n'ai rien ressenti de fort. Où devrais-je aller la foi, où devrais-je aller pour être enfin chez moi?
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richeux.
On a des villages absolument magnifiques en Corse, mais la beauté même des villages, elle n'est possible que parce que la ville les a désertés pendant longtemps et qu'il n'y a pas tout ce qui fait le désordre et la laideur des choses qui ont continué à vivre et à se développer. Et c'est frappant que même les cimetières aient l'allure de petits villages.
La nouvelle fit le tour des Trois Gueules en moins d'une matinée. L'assistant descendit au cabinet, où il croisa le père de Grégoire, qui avertit son fils, lequel déjeuna au café avec les anciens qui en parlèrent à leurs femmes, aux fourmis blanches de passage, aux paysans qui déposaient les commandes à l'épicerie. Le bébé allait bien, il s'appelait Charles, ses cheveux étaient noirs et il portait une tache de naissance sous le gros orteil, ce qui, pour certains, était un signe de protection divine. S'il avait eu la même sur le visage, le bras ou le cou, on se serait inquiété. Les anciens disaient que cette race était maléfique, sauf si la tache se trouvait sous le pied. Alors l'enfant écraserait la tache. Alors l'enfant écraserait la mauvaise chance chaque fois qu'il ferait un pas. Dès qu'il apprendrait à marcher, il étoufferait les forces en mettant un pied devant l'autre. Un signe. Le miracle avait eu lieu, et cette tâche en était la preuve. Grégoire félicita Agnès et Bénédicte. Il se fit offrir le café dans la salle à manger, tint l'enfant dans ses bras quelques secondes, jeta un coup d'œil à son pied pour voir si ce qu'on disait était vrai, puis il serra Bénédicte contre lui, comme pour le remercier de donner aux fontaines un enfant inattendu et béni.
Cécile Coulon, Inès Duperron lit un extrait de votre roman « Trois saisons d'orage ». Juste avant, on entendait la voix de Jérôme Ferrari dans une archive de l'Humeur Vagabonde datant de 2012. Jérôme Ferrari qui a écrit sur des villages corses, sur la manière dont circulent les nouvelles, les rumeurs, le passé, les légendes. Et dans l'extrait que lit Inès Duperron, il y a la tache sur le pied d'un enfant qui vient de naître et toutes les croyances qui vont avec. Et juste avant, au début de ce paragraphe, de ce chapitre, il y a la manière dont circulent les nouvelles. Est-ce que la circulation justement de cette parole, de ces croyances, de ces légendes fait du village le lieu idéal pour le roman ?
Les villages, de manière générale, sont un vivier extraordinaire d'histoire et donc sont un terrain privilégié pour les romanciers. Ça ne fait aucun doute. Même si on pourrait penser que la ville tentaculaire qui contient tellement d'habitants, de familles, d'histoires d'amour, de ruptures, et comment dire, le jouet préféré des romanciers. Mais en fait, je pense que la grande qualité des villages pour ça, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires réunies en un lieu extrêmement limité. En un lieu géographique extrêmement limité. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette idée de pieuvre urbaine qui se déploie encore, encore et encore. C'est ce que disait Jérôme Ferrari. C'est que c'est justement parce que la vie est partie, parce que ça s'est arrêté à un moment donné, que les villages sont si intéressants, si importants et si étranges, justement. Et je pense que ce qui fait aussi la complexité de ces lieux, autant pour les architectes que pour les romanciers, c'est l'amoncellement d'histoires, l'empilement des générations, l'empilement des familles, l'empilement des secrets, de ce qui aurait dû être dit et qui n'a pas été dit. Tout ça forme une espèce de monument réel qui prend une dimension fictive, une dimension romanesque absolument formidable, enfin je trouve.
Est-ce que vous avez commencé par faire cela, c'est-à-dire que il y a, vous le dites, un monument qui appelle la fiction ou qui n'est bâti que de fiction, mais il y a aussi un réel qui en propose de la fiction à foison. Est-ce que vous avez tendu l'oreille? Est-ce que vous avez creusé les couches de villages que vous connaissez? Est-ce que vous êtes allé chercher des secrets ici, des secrets ailleurs? Ou est-ce que finalement, tous les villages partagent des secrets qui sont assez similaires et qui sont les rouages de votre roman, à savoir des histoires d'amour, des histoires de départ, des rapports à la ville, des enfants qui naissent, des personnes qui meurent.
Je pense que tous les villages partagent effectivement des secrets qui sont similaires. Ce sont les familles qui ne le sont pas, ce sont les gens qui y vivent. Quand j'ai commencé à écrire ce texte, l'impératif premier, c'était le lieu. Et c'est la même chose pour tous mes textes précédents d'ailleurs, et pour tous les prochains je pense. C'est-à-dire que le personnage principal, ce sont les carrières, les montagnes et le village. Et tout a été construit en fonction de cet endroit. Je crois profondément, et c'est ce que j'ai voulu démontrer dans ce roman aussi, qu'en tant qu'être humain, on est persuadé qu'en arrivant dans un endroit, qu'en construisant un endroit, on va le faire à notre image. Un peu comme quand on élève un enfant, en fait. Et on a aussi tendance à oublier qu'on est, nous, éduqués, formés, rabotés par les lieux où on a grandi, par les lieux qu'on habite. On est façonnés par ces lieux-là. Et C'est pour ça que le personnage principal, c'est le lieu, et que j'ai commencé par ça, parce que je voulais vraiment faire une histoire dans laquelle les personnages n'évoluent qu'en fonction de ce qui les entoure, qu'en fonction de la hauteur des montagnes, qu'en fonction de la violence des orages, de la violence du vent ou la brûlure du soleil, et pas l'inverse.
Et d'ailleurs, quand vous parlez de cette démonstration-là, vous écrivez « Trois saisons d'orage » comme une tragédie. André s'installe dans une maison où un enfant est mort, un enfant qu'il n'a pas pu sauver, en faisant le pari ou en essayant de croire qu'il ne sera pas poursuivi par cette malédiction. Vous dites, voilà, il veut faire cette maison comme il l'entend lui, avec le désir de bonheur qu'il y met. Or, la maison va se retourner autour de lui, va se retourner même contre lui, comme si c'était un être respirant. Alors, vous démontrez quoi? Qu'on n'échappe pas au destin des lieux? Qu'on n'échappe pas à l'esprit des lieux?
Je pense que ce que je voulais montrer, c'est qu'on nous n'échappons pas à la puissance des lieux. Le destin ou la malédiction, à chacun de juger si ça existe ou pas. Simplement, ce n'est pas parce que des lieux sont faits de pierre et d'autres sont faits de chair que ceux qui pensent sont plus forts que ceux qui sont faits de pierre, tout simplement. Et je crois que, tout simplement, on a tendance à mettre en opposition le mouvement avec, on va dire, le mouvement de la chair avec l'immobilité de la pierre, en oubliant que l'immobilité de la pierre, d'accord, elle est moins, peut-être moins vivace, elle est moins forte, moins spontanée que ce que nous sommes nous, mais n'empêche qu'une fois que nous on est parti, elle est encore là. Elle est capable de s'étirer dans le temps, et elle est capable de survivre à tout. Et la vraie, pas morale, mais si, peut-être la vraie morale de cette tragédie, c'est que on aura beau creuser la pierre, elle sera toujours plus forte que nous. On aura beau l'attaquer, elle sera toujours plus forte que nous.
Le paysage parle énormément, c'est-à-dire, moi j'ai des personnages qui sont peu loquaces, qui s'expriment très peu, mais qui regardent énormément. Ils regardent énormément à la fois les autres, et ils regardent énormément les paysages. Et je trouve que le paysage évoque beaucoup les états intérieurs que l'on traverse. Et de la même façon, je trouve que filmer un visage, c'est comme filmer un paysage. C'est exactement la même chose. Et le paysage du Nord est un paysage qui est simple, qui est clair, qui parle d'une façon très très juste, je pense, de l'humanité. Parce que c'est pas un pays spectaculaire. C'est-à-dire que c'est un pays qui modifie énormément celui qui le regarde.
Malgré les forces qui planaient au-dessus des Trois Gueules, malgré les cris gutturaux des oiseaux qui jaillissaient du torrent, les femmes accouchaient d'enfants robustes. Et Bérangère, cette fille du pays, qui n'avait rien vu d'autre que la plaine devant la terrasse de son immense cabane, Bérangère était tout ce que les fontaines attendaient qu'elle soit. Elle vivrait ici, prendrait soin des autres. Le sang dans ses muscles était un sang pur, un sang guerrier. Elle possédait la beauté discrète mais certaine de sa mère, son élégance aussi, et l'énergie utile de son grand-père. Elle lui ressemblait quand elle descendait la Grand-Rue, dans sa façon de saluer les habitués. Une nonchalance respectueuse, comme si tout cela, toute cette vie autour d'un gouffre de pierre où mouraient des enfants, des animaux, des hommes imprudents, était parfaitement naturel et nécessaire. Valère était tombé amoureux de sa capacité à trouver sa place, à l'occuper pleinement. Elle était différente, si sûre d'elle, de son pouvoir sur les fontaines, de sa famille. Valère voulait faire partie de ce monde, côtoyer Bénédicte et André, faire la connaissance d'Agnès, comprendre comment ils avaient manœuvré pour qu'elle soit si belle, si douce. Bérangère savait exactement où elle allait et comment elle y allait. Peut-être était-ce là le privilège des filles bien nées, il n'en savait rien. Elle était la première qu'il rencontrait, et certainement la seule des Trois Gueules.
Cécile Coulon, Romain de Bec-de-Lièvre lit un troisième extrait de votre roman « Trois saisons d'orage » et c'est l'une des figures de femme, Bérangère, qui, malgré le lieu, tout à l'heure vous disiez combien le lieu avait été premier dans l'écriture de votre roman et combien il conditionne la vie, sinon le destin de chacun des personnages, on le sent que certains ou certaines, pour être plus précis, veulent aller contre ce lieu-là. C'est le cas de Bérangère, éventuellement aussi le cas d'Agnès qui fait des allers-retours avec la ville. Il semble que dans votre roman, les femmes ou les jeunes femmes soient celles qui fassent le transfuge possible entre à la fois différentes classes sociales et différentes sphères géographiques.
Je pense effectivement que c'est par elles que le mouvement arrive, que le mouvement du langage, le mouvement du corps aussi, évidemment, et comment dire, le déplacement d'un lieu à un autre, c'est-à-dire qu'il faut compter sur les femmes pour que les choses bougent, pour que les choses évoluent, et compter sur les femmes pour trouver un peu de puissance et un peu de force dans les êtres humains des Fontaines et des Trois Gueules. Mais ça vient aussi du fait que ce village a été déserté pendant la Première Guerre mondiale par les garçons et par les hommes, et que c'est un village reconstruit grâce aux femmes, évidemment. Puisque c'est quand les ouvriers sont venus pour creuser les carrières, ils ont pris avec eux leur famille, ils ont pris les femmes qui se sont installées là, qui ont travaillé là, qui ont élevé les enfants là et qui ont tout fait pour que les enfants ne s'en aillent pas. Donc il y a effectivement une grande part de responsabilité féminine dans l'éclosion du village.
Et en même temps, dont vous écrivez que cette responsabilité est double. À la fois, elle est solaire, à la fois, elle est l'orage, parce que c'est aussi par les femmes qu'arrive la malédiction, que ce soit via la naissance des enfants ou que ce soit la manière dont elles font le lien possible avec la ville, donc avec des futurs acheteurs, des futurs investisseurs, bref, avec du changement. Ça voudrait dire que mouvement, désir, vie est forcément lié pour le village avec... quoi, la mort, le danger, la disparition?
Alors, je vais répondre en deux fois.
Allez, trois même si vous voulez.
Super. Déjà, je pense que les femmes sont le lieu de la liberté. La liberté dans le sens où, pour reprendre ce que vous venez de dire, elles sont ce par quoi arrive le déplacement, le désir, le charnel, et que ces déplacements, ce désir et ce charnel sont à la fois source d'une grande beauté, d'une grande vivacité, et aussi d'une forme possible de malheur pour le village, d'une forme possible de désespoir, et d'une forme possible d'une forme assez mortifère, en fait. Mais peut-être que c'est là-dedans que réside l'absolue liberté des êtres qui y sont et l'absolue liberté du village, c'est-à-dire dans cette capacité à se laisser aller complètement au frémissement, au tremblement du corps, à s'abandonner absolument sans savoir ce qui va arriver, sans être capable de prévoir l'avenir, de s'abandonner totalement à toutes les formes de tremblement possibles dans le corps et dans le village. On parlait tout à l'heure de sensualité. La vraie liberté dans le texte et dans ce lieu-là qui est extrêmement escarpé, extrêmement cloisonnant, en fait, la vraie liberté, elle se trouve dans le corps, elle se trouve dans la peau, elle se trouve dans le mouvement.
Vous l'écrivez comme tel dans « Trois saisons d'orage » parce que, vous le disiez tout à l'heure, vous voulez démontrer quelque chose, parce que cette fiction l'impose, ou parce que vous l'avez observé, que par les femmes venait tout ce mouvement que vous décrivez?
Je ne cherche jamais à démontrer quoi que ce soit.
C'est vous qui l'avez dit,
oui.
Ce n'est pas moi.
C'est vrai, peut-être. Comment dire, au départ, quand je commence à écrire un texte, je ne me dis pas « je dois démontrer quelque chose », c'est plutôt ça. C'est plutôt à la fin, en
vous
relisant,
constatez l'avoir fait.
Je constate qu'à travers une histoire que j'ai absolument voulu raconter, j'ai peut-être démontré quelque chose qui peut-être me tenait à cœur aussi, dont je n'avais pas conscience. En tout cas, au départ, moi, je veux simplement raconter une histoire et la raconter de la manière la plus précise, la plus efficace aussi. Pour moi, ce n'est pas un gros mot, l'efficacité. La plus efficace et la plus, vivace possible. Il faut qu'il y ait le mouvement dans l'écriture aussi. Il faut que le désir, dans le texte, il passe de la ville à la campagne. Il faut aussi que le désir passe de l'auteur au lecteur. C'est extrêmement important. Je crois que la lecture, c'est quelque chose de très très sensuel, en fait. Du coup, une fois que j'ai eu terminé ce texte, il y avait cette question du désir, cette question de la liberté du désir, et pour moi c'était évident, très très évident, que ce serait par le corps des femmes qu'elle viendrait. Parce que, aux trois gueules, le corps des hommes, c'est un corps qui est soit ouvrier, très fatigué, ou un corps paysan, donc un corps plutôt vieilli, fatigué aussi, et qui n'attend plus grand-chose de l'extérieur. Et je me suis rendu compte que les femmes, ou en tout cas le corps des femmes, dans ce texte-là et dans ce contexte-là, avaient le rôle principal à jouer, celui du désir en tout cas.
Aimant, le monde est un ivrogne, ou bien ton fils est sous, quand ses croûtes aux genoux n'attendrissent personne. Aimant, le monde est une danse qui ne tient pas debout. Eh bien, ton fils est fou de trop de remontrances. Et maman, à quoi bon si qu'on dort, accorder nos pardons plutôt que se faire mort à la moindre occasion. La vie, tu sais bien que je l'aime. Dis-lui, je ne maudis que la mienne. Aimant, y a de quoi crier fort, et tout autour de ça, même en baissant les bras, de quoi crier encore. Aimant, ils sont sang qui s'enrage pour ton fils en colère. Ils lui jetteraient des pierres s'ils avaient du courage. Mais maman, ils sont millions à rire. Qu'un seul soit tombé, maman, le monde est laid comme un vieux souvenir. La vie, tu sais bien, nous emporte. Dis-lui, mille bandits m'escortent.
I go out every day and
je sors tous les jours et je me mets au travail à 7h30 du matin jusqu'à midi, 7 jours par semaine. Et aussi longtemps que les idées me viennent, pour moi c'est pas du boulot, c'est du jeu, c'est du plaisir. Je dirais pas que je souffre jamais. Je souffre. Et il y a des jours, je me suis assis au travail, je me sens pas bien. Je suis enrhumé, j'ai des douleurs ici et là. Je suis pas aussi jeune que je l'étais. Il y a des jours où c'est un peu difficile. Mais le travail, c'est une échappatoire, hein, c'est une voie de sortie de la vie ordinaire, du monde ordinaire. Et j'aime bien penser que parfois, quelque part, je vais avoir des lecteurs qui vont avoir la trouille de leur vie. Et ça, ça aide.
Est-ce que vous croyez au diable, Stephen King ?
Oui, je crois au diable, je crois qu'il est en nous. Et que Dieu aussi est en nous. Mais je crois que le diable est très présent chez nous. Et voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans ce monde.
En nous, mais pas comme une force extérieure. C'est pas le diable qui a déréglé la société américaine, qui a répandu l'usage des armes à feu, le fondamentalisme religieux ou la presse à scandale.
J'ai jamais rien écrit au sujet du diable en tant que tel. Je suis certain qu'il y a quelque chose dans nos âmes, à nous, qui aime la violence, la terreur, le mal. Et chacun d'entre nous a fait un moment ou un autre quelque chose de très méchant. Et c'est ça le diable en nous. Mais un vrai diable avec des petites cornes, une petite queue, non, je pense pas là, non.
Vous riez à la voix de Stephen King ici au micro de Patrick Cohen sur France Inter. Il dit « Je ne suis plus si jeune maintenant, mais je continue d'avoir ce rythme d'écriture. Je me mets à ma table de 7h30 à midi et tant que les idées viennent, je travaille. » On peut dire, Cécile Coulon, que vous êtes encore plutôt du côté de la jeunesse. Vous avez quelques livres à votre actif. Et il parle de la manière dont l'écriture, Stephen King, a une place à la fois extrêmement joyeuse et en même temps laborieuse et souffrante. Quelle place elle a dans votre existence aujourd'hui, cette écriture ?
Je crois que l'écriture, pour moi, c'est une espèce de petite sœur qu'il faut gronder parfois parce qu'elle fait un petit peu trop de bruit. Voilà.
Elle prend trop de place ?
Voilà, elle prend beaucoup de place. Elle s'éparpille, vous savez. Elle s'éparpille parce que c'est ce que j'adore faire. J'adore d'abord raconter des histoires. Et la manière, pour moi, la plus simple et aussi celle qui me permet de prendre autant d'espace, autant de temps que nécessaire, c'est l'écriture. Donc je peux pas vous dire qu'elle représente tout parce que ce serait faux, mais elle est jamais douloureuse, elle est jamais laborieuse. Il y a quand même cette idée que j'écris pas pour échapper au réel, mais au contraire que j'écris pour m'y plonger, et c'est tellement agréable. Et je me dis que, très souvent, je me dis que j'ai la chance de me lever le matin en me disant que je vais faire quelque chose que j'aime, qui me passionne, et qui, en même temps, m'enrichit, m'aide à grandir, et me fait prendre du recul sur ce que je vis, et ce sur quoi je pose les yeux, ce sur quoi je pose le regard. Donc, c'est une sorte de petite sœur un petit peu maléfique qui est là, mais, comme c'est ce que j'aime faire, et que je n'envisage pas aujourd'hui de faire autre chose que ce que j'aime faire, va le prendre de plus en plus de place.
On entendait tout à l'heure dans un de vos textes combien les histoires circulent dans le village. Vous vous dites, il n'y a rien que j'aime tant que raconter des histoires. Pourquoi ? Pourquoi c'est si important de raconter des histoires ?
Parce que c'est comme ça qu'on fait confiance aux autres. À partir du moment où quelqu'un vous raconte quelque chose, ça veut dire que cette personne vous propose quelque chose, vous propose un morceau, soit de sa vie, soit de sa pensée, soit de son intelligence, ou de sa bienveillance, ou autre chose. Mais raconter une histoire est la manière la plus rapide, la plus simple, la plus efficace de rencontrer quelqu'un, de nouer quelque chose avec quelqu'un, et ça peut être très spontané, et ça peut être très rapide, et aussi momentané, bien sûr. Mais je crois que raconter une histoire, c'est comme poser un baiser très furtif sur la lèvre de quelqu'un qu'on connaît pas. Encore, on revient à cette histoire de sensualité à chaque fois. Mais il y a un pacte tacite de confiance qui se crée entre deux personnes qui s'écoutent. Et aujourd'hui, on se lit beaucoup, on se regarde beaucoup, mais on a du mal, je trouve, parfois à s'écouter les uns les autres, et raconter une histoire, ça peut être une blague aussi, raconter une histoire, c'est le meilleur moyen de replonger dans le réel, justement.
Stephen King disait que, certes, le diable n'avait pas de petites cornes et de queue rouge aux fesses, mais qu'il était dans chacun des individus qui peuplent ses romans, comme une sorte de figure du mal. Il dit aussi que Dieu est dans chacun des individus qui peuplent ses romans. Il se trouve que dans votre roman à vous, Trois saisons d'orage, la question de la foi et du religieux arrive à la fin, ou revient plutôt, car elle était présente par la figure d'un curé.
Oui.
Est-ce que pour autant c'est cette figure-là qui finit par dire, parce que bon, pour ne pas trop dévoiler de l'histoire, on vient demander dans l'église ou à l'homme d'église ce qu'on peut faire à la fin de votre roman.
Oui.
Qu'est-ce qui est possible ? Qu'est-ce qui était bien ou mal ? Qui a fauté ou n'a pas fauté ? Ça veut dire que vous remettez au final, après l'avoir mis dans les mains de la nature, le sort de vos personnages dans les mains de cette parole-là ?
Je crois que c'est plutôt les personnages qui pensent que leur sort est entre les mains de cette parole-là, puisque d'ailleurs je crois que les presque derniers mots du prêtre sont « j'en voudrais jamais aux gens qui s'aiment ». Dieu ne punit pas les gens qui s'aiment. Voilà. Donc ceux qui viennent demander ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, finalement le prêtre leur dit « mais c'est pas moi qui va vous dire ce que vous avez le droit ou pas le droit de faire. Regardez ce qui se passe autour de vous. Moi, ce qui m'intéressait avec cette question, justement, de la foi, c'était de dire que le prologue du livre s'ouvre avec la voix de Clément, ce prêtre qui dit « Moi, je suis la grande oreille du village, moi, je connais tout, j'ai tout entendu. Je suis justement celui qu'on vient voir quand on doit se débarrasser d'une faute. Et moi, j'écoute tout et je ne dis rien. Et pourtant, j'ai une histoire qu'il faut absolument que je vous raconte. » Et je crois que l'idée derrière ça, c'était raconter une histoire, et le langage, de manière générale, est obligatoire pour tout être humain. C'est-à-dire que même celui qui est censé ne pas parler, à un moment donné, a besoin de raconter quelque chose, a besoin de dire quelque chose. Et la foi, ou en tout cas l'idée qu'il y aurait le bien d'un côté, le mal de l'autre, qu'on serait capable de l'un comme de l'autre, elle réside aussi là-dedans, dans le fait que oui, on est comme ça, on est né comme ça, on est éduqué comme ça. On nous dit toujours, voilà, qu'on peut être capable de grandes choses, mais qu'avec avec des grandes responsabilités viennent aussi un grand pouvoir, et qu'il faut faire très attention avec ça. Mais que la seule possibilité d'équilibrer ces deux parties, c'est de raconter une histoire, même pour celui qui est censé ne pas les raconter.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richaud.
Et il est 14h51 sur France Culture. Chaque semaine, nous demandons justement à quelqu'un ou à deux personnes de nous raconter cinq histoires en lien avec le chantier thématique que nous choisissons. Alice Ramon s'est adressée à Marie Boutier et Anouk Le Marquis, qui sont deux photographes. Elles ont entamé un projet qui s'appelle Demi-tour de France, où elles photographient des gens, des villages, des chemins, des routes et parfois des fêtes sur lesquelles elles tombent par hasard.
Je suis tombée vraiment en plein bal populaire. Ça faisait longtemps que je faisais de la route et tout, j'étais un peu fatiguée, etc. Et je me suis dit, bon, vraiment, j'y vais par curiosité, je monte, mais j'aurais pas pensé rester aussi longtemps. Et mais c'est tellement, en fait, chaleureux que oui, j'ai voulu y rester. Et donc, du coup, j'ai vu cette jeune fille avec une couronne de roses autour de sa tête. Et je voyais une femme qui était, mais fière comme un coq. Et je lui ai dit, est-ce que c'est votre fille, madame? Et là, elle m'a dit, mais bien sûr, oui, c'est ma fille qui a gagné cette année, en 2016, le prix d'être la plus belle du village, d'avoir une couronne de roses autour de sa tête. Alors je lui disais, mais alors vous devez être fière, oui, parce que ma fille est vertueuse. Et donc, elle avait juste 16 ans et elle devait se marier dans l'année. Et moi, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est quand même assez jeune pour se marier à 17 ans.
Et les gens y croient ? Les jeunes y croient ? Dans ce village ?
Oui, les jeunes y croient. Ils sont quand même un peu isolés et je pense qu'ils se rencontrent tôt.
Même si après, cette jeune fille ne va pas se marier dans l'année parce qu'elle a quand même 16 ans et qu'elle a toute la vie devant elle. Juste de garder ses rites, c'est assez important parce qu'après, c'est des rites qui font à la fois partie de l'héritage et du patrimoine du village et de la région. Mmh. Mais aussi des rites qui sont des rites presque de passage, qui sont enfin, des choses qui existent partout, en fait, enfin, comme passer de l'adolescence à l'âge adulte. Donc après, enfin, c'est plus l'imaginaire qui est tout autour qui est important que l'acte en lui-même, parce que enfin, déjà, tout le village y participe, et c'est aussi les seuls moments où il peut y avoir tout un village même qui se rencontre. Par exemple, moi, je vois dans le village chez mes parents, enfin, comme il y a des rancœurs entre tout le monde, il y a des haines. Mais le moment de la fête du village, c'est le moment où tout le monde passe sur ces choses-là et participe à quelque chose.
Et chaque village a sa spécificité dans ses fêtes. Ça peut être la fête de la rose, comme on disait précédemment. Ça peut être la fête de l'huître et du pinot. Ça peut être la fête des escargots, de la saucisse, de ce que tu veux. Mais en tout cas, en fait, c'est une identité. C'est leur identité.
Il y a aussi des formes de tradition qui perdurent et qui sont assez belles. Moi, je vois comme dans l'Hérault, dans toutes les fêtes de village, ils ressortent à chaque fois l'animal totem du village. Chaque village de l'Hérault a son animal totémique. Donc, il y a des villages où ça va être le loup. Ça peut être l'âne, mais ça peut être aussi le pou. Comme à chaque fête de village, c'est l'occasion de sortir l'animal totémique, de faire une parade, de vraiment faire perdurer les traditions et les légendes locales.
<t'->
C'est Fishback qui termine l'émission d'aujourd'hui, le meilleur de la fête. Vous pouvez l'entendre vraiment partout, tout le mois de février, tout le mois de mars. En tout cas, à peu près, elle sera à Lille le 23 février, elle sera à Saint-Malo le 24, le 28, à Alonne le 1er mars, à Saint-Jean-de-la-Ruelle le 2 mars, à Amiens le 8 mars, à Metz le 10 mars, à Marseille le 14 mars, à La Cigale, à Paris. Et juste avant, et j'en passe, hein, vous pouvez trouver le reste sur les sites internet de la Dame. Et juste avant d'entendre la voix des deux photographes du projet Demi-Tour de France, elles sont actuellement dans l'Orne, dans le parc régional du Perche, et vous pouvez leur faire signe pour un café en vous rendant sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook du projet Demi-Tour de France. Cécile Coulon, merci beaucoup.
Merci à vous.
D'avoir été avec nous cet après-midi. Trois saisons d'orage, c'est votre roman paru aux éditions Viviane Ami. On ne vous donne pas exactement rendez-vous pour un café, mais vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr. On vous donne rendez-vous pour un message en bas à droite de la page via une petite enveloppe rouge et sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Les nouvelles vagues sont présentes. On vous dit demain, même heure, même chaîne. Dans un instant, nous sommes jeudi, le dernier épisode avec Mathieu Garrigou-Lagrange de la Compagnie des auteurs.